Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Au programme de cette émission de fin de semaine, on va bien évidemment revenir sur l'épreuve de Martinsville, épreuve nocturne qui s'est déroulée mercredi soir aux États-Unis, et on parlera bien évidemment de la course qui arrive ce week-end du côté d'Homestead avec 4 courses en 2 jours, entre 2 courses d'Xfinity, une course de truck, une course de cup. Le programme s'annonce chargé en Floride. Pour parler de tout ça, Lilian, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et Aloïs, salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Alors, Lilian, la NASCAR était du côté de Martinsville mercredi soir. Une course nocturne, complètement dingue, complètement folle.
Avec une... elle est partie au taquet.
Ah, ça a mis le bazar dès le départ.
Ça a été animé en début de course, mais la fin, au final, a été tellement dominée par Truex. J'ai trouvé la fin un petit peu, je n'allais pas dire morose, mais un peu triste. Ouais, c'est vrai qu'on a été habitué à tellement de spectacles à Martinsville. Bon, là, ça a été beaucoup plus calme.
Oui, une victoire avec 5 secondes d'avance, ça choque.
Bah, surtout à Martinsville, quoi, quand souvent la pole elle est faite à quoi, en moins de 20 secondes.
Oui.
Là, ouais, 5 secondes, et encore, je pense qu'il a été à plus que ça par moment. Mais bon, ouais, voilà. Truex a mis du temps à sortir, et quand il est arrivé en tête, clairement, il y avait lui et les autres.
Alors, on parle de la domination de Truex, mais je pense que c'est surtout la domination de Joey Logano pendant toute cette course, et plus largement, de la Penske.
Oui, c'est un petit peu ce qu'on discutait hors antenne. Truex, c'est le seul qui a surnagé chez Gibbs, et de très très loin, les autres, ils ont coulé, mais quelque chose de monumental, alors qu'on disait après Atlanta qu'ils étaient de retour, que c'était la fête, ils pouvaient sortir le champagne et tout. Non.
Mais là, la régulière, Kyle Busch, Denny Hamlin, au-delà du tour.
Mais surtout sur un short track comme Martinsville, où habituellement, ça fait top 10 quand ça va pas bien.
Là, c'est pas des peintres hein, sur ce genre de piste. Hein.
Non. Ah bien sûr. Mais là, ça a été hallucinant. Ils n'avaient absolument pas la voiture. Ils étaient complètement garés. Je crois que Kyle Busch a tapé plusieurs fois face à des adversaires qui avaient du scotch dans tous les sens. Et Denny Hamlin, c'est pareil, quoi. La voiture n'avançait pas.
Il
termine 24e. À un moment donné dans la course, il n'y a aucune Toyota dans le top 20.
Donc, et à l'arrivée, on en a que 3.
Il y a quelques encablures de prendre un tour.
Oui, oui.
À ce moment-ci.
Oui, oui. Clairement.
Et à l'arrivée, tu parlais du top 20, on en a que 3. Donc Truex qui gagne. Et ensuite, il faut descendre à la 19e et 20e place pour avoir Kyle Busch. Pardon.
Ouais.
Et puis.
Eric Jones. C'est assez fou. C'est. Oui,
Louis. Ce qui est surtout marqué avec Kyle Busch et Denny Hamlin, c'est qu'au final, ils avaient pris 2 tours avant la mi-course.
Ah oui, oui.
Et merci le waiver round, moi, c'est clair.
Et encore, non, Kyle Busch n'a pas pu faire le fameux waiver round quand Corey LaJoie est resté en piste.
C'était à la fin du deuxième segment, deuxième.
Je pense qu'il a repris un de ses 2 tours seulement.
À la fin du deuxième segment. Non, Kyle Busch, il ne reprend pas de tour à ce moment-là, puisqu'il était derrière Corey LaJoie qui a choisi de ne pas s'arrêter. Et du coup, je pense que s'il l'avait su, Kyle Busch est rentré au stand. Quoi. Voilà, ça arrive des fois, des petits problèmes de communication entre le spotter, le chef d'équipe, le pilote. Et on est passé... à la trappe et on s'est fait un petit peu avoir. Au final, Kyle Busch ne termine qu'un tour, mais clairement, course 100 pour la Gibbs et course, tu le disais à Loïs, complète du côté de la Penske avec Logano, Keselowski et Blaney qui ont été là globalement sur l'ensemble de la course. Blaney a eu un trou d'air Donc, premier segment, et a eu une pénalité. Donc, il est remonté deux fois.
Mais ce qui m'a surtout surpris avec les Penske, c'est qu'au final, au contraire de la Gibbs, Ryan Blaney et Brad Keselowski avaient pris un tour sur ce fameux premier drapeau vert en tout début de course.
Oui.
Ils tombaient comme des pierres.
Keselowski était largué également, c'est clair.
Oui, et au final, ils sont arrivés à reprendre leur tour et à remonter très rapidement dans dans le top 10. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez à une certaine raison pourquoi la Penske a arrivé à remonter et à arriver à régler la voiture alors que la Gibbs n'y est pas arrivée?
La Gibbs, pour réagir, la Gibbs, c'est à l'image de sa saison. Il y a des courses avec, il y a des courses sans. La Penske, elle a su ajuster. Et c'est à l'image de sa saison également, où ils sont là. Et on a déjà deux des trois pilotes qui ont gagné des courses. Mais c'est vrai que ça reste quand même super étonnant. Certes, la piste a évolué parce qu'on a commencé en diurne, on a fini en nocturne. Enfin, d'habitude, la Gibbs, dans les stands, on sait ajuster les voitures. Et pourquoi il n'y en a qu'une sur les quatre? Et on peut même dire, comme d'habitude, cinq, si on veut, qui a marché. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a... Bon, je pense en principe qu'il y a un partage des données par rapport au réglage des voitures qui doit être fait au niveau des quatre structures. Pourquoi Truex et pas les trois autres?
C'est un mystère. C'est...
Bah, ouais, là après, c'est des données qu'on n'a pas.
Mais c'est vrai que c'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, Lilian, c'est qu'on arrive à 10 courses consécutives remportées soit par la Gibbs, soit par la Penske. Sur short track, donc faut remonter. La série, elle a commencé à Richmond à l'automne 2018. Depuis, que de la Gibbs, que de la Penske, et surtout Martin Truex Jr. qui n'arrivait pas à gagner sur short track depuis qu'il a ouvert son compteur l'année dernière. C'est devenu le favori à chaque fois sur toutes les courses sur les ovales de moins d'un mile.
Oh bah il répond, il a compris, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, et même avec, j'ai envie de dire, même avec son nouveau crew chief, ça n'a pas posé de problème. Il a mis le temps, et je crois que c'est ça, il a commencé à mener, on était déjà dans le dernier segment, mais il a mené plus de 100 tours, mais les 100 derniers. Quoi.
Il mène 132 tours.
Et je pense que c'est ça, il commence à mener au-delà du tour 350, ou dans... Par là, plus ou moins.
Alors, techniquement, non. La première fois qu'il mène, il mène une fois au tour 115.
D'accord.
Mais sinon, il commence à mener au tour 370. Du 370 ouais. Au 500e, c'est lui.
Ouais, voilà.
Donc.
Parce qu'en début de course, on aurait pu croire à un retour de Jimmy Johnson, qui a mené quand même pendant un petit moment.
Oui, qui a gagné.
Ça y est, il va enfin aller nous chercher un damier.
Bah oui, il a pris un damier, hein, mais deux segments.
Et bon, voilà, ça confirme le regain chez Johnson, mais toujours en fin de course, hein, ça reste quand même compliqué pour la Hendrick, même si les quatre voitures sont dans le top 10, hein, c'est quand même une performance à signaler. Ça reste solide du côté des quatre voitures, mais la première n'est que cinquième,
oui.
Avec Chase Elliott.
Effectivement, mais bon, enfin voilà, c'est compliqué, tu mets les quatre voitures dans le top 10. Je pense que c'est
ouais,
pas mal.
Quand
quoi.
Tu t'appelles Hendrick, forcément, on a des attentes qui sont toujours très très élevées.
Oui, toujours.
Surtout à Martinsville.
Si tu compares à la Gibbs, je pense que tu te contentes de 4 top 10. Hein.
C'est ça.
Je suis d'accord.
Alors,
surtout, au final, si on peut résumer, on a eu la Penske, la Hendrick et Martin Truex Jr.
C'est ça.
Effectivement. Alors, et quand on regarde le top 10, hein, on va descendre le top 10. Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Brad Keselowski, Joey Logano, Chase Elliott, Alex Bowman, Matt DiBenedetto, William Byron, un intrus, Kurt Busch et Jimmy Johnson. On a quand même un pilote Ganassi, sinon c'est que de la Penske ou affilié avec la Wood Brothers Racing, un pilote Gibbs et de l'Hendrick. C'est assez impressionnant.
Après, c'est beau, mais c'est tout à fait parlant et c'est à l'image de ce qu'on peut voir cette saison, je trouve.
Sinon, rapidement, les rookies, pas à la noce. La Stewart Haas, pas à la noce. On a Karvik, si je dis pas de bêtises, qui est le mieux classé, qui fait 15e à un tour.
Oui, c'est premier à un tour d'ailleurs.
C'est tout sauf génial.
Après, Clint Bowyer était plutôt fringant au début de course, oui. Avant, comme Harvick, de rétrocéder dans la hiérarchie.
Il n'a pas eu un problème... Ah non, c'est sur Atlanta qu'il a un problème de pneus.
Surtout, ils avaient tous des problèmes de batterie.
Oui, bah oui, Harvick a dû switcher.
Ah oui,
il a changé, je crois, directement.
Mais je crois qu'ils ont tous eu des problèmes de batterie ou tout du moins liés à l'électrique.
Exact. Qu'est-ce qu'on a d'autre à signaler? Oui, Austin Dillon, qui termine 37e sur accident, mais Austin Dillon, pareil.
Qui termine épuisé, surtout.
Ouais, épuisé, marqué. Je pense que ce n'est pas que l'enchaînement des deux courses en 3 ou 4 jours. C'est que les températures étaient aussi assez élevées comme sur Atlanta, et que les organismes sont usés, parce qu'on a très peu parlé sur Atlanta, mais... Enfin, on a parlé de Bubba Wallace à la fin, mais on avait Ryan Newman, c'est pareil, qui est resté adossé au mur des stands pendant 5-10 minutes, histoire de se remettre de sa course. Là, sur Martinsville, ça, on l'a un peu moins vu, mais c'est vrai qu'Austin Dillon, il est sorti de sa voiture, mais il a fallu l'aider lui aussi pour sortir.
Il n'a pas fait les 100 derniers tours, et il a fini sur une civière.
Oui.
Je pense, du coup, on n'a pas vu, mais direction le
centre médical pour une réhydratation.
Ouais. Et après, c'était aussi lié avec son incident de début de course, puisqu'il y a eu des soucis qui ont provoqué un problème d'aération, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il a dû inhaler pas mal de fluide et de
gaz,
de vapeur toxique.
Oui, de vapeur, oui. Oui, plus du gaz que du fluide, à mon avis, là, inhalé, tu vois.
Oui, je veux dire des odeurs venant des fluides.
Ah oui, oui, ça c'est sûr.
Après, je pense qu'on peut quand même parler du 11e, qui était à quelques centimètres de finir 10e.
Oui, Bubba Wallace, avec une décoration particulière.
Avec une décoration.
Une très belle course au global.
Et oui.
Surtout qu'il était dans le top 5 à un moment, et à la régulière.
5e du premier segment, 6e du deuxième. C'est tout sauf usurpé de faire une 11e place en fin de course. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est dommage. C'est presque dommage de ne pas terminer dans le top 10.
On est d'accord. Il aurait mérité, tout du moins.
C'est vrai.
Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé, sinon, de Martinsville en nocturne, réellement, tout au long de la course, globalement, parce qu'on avait eu plus ou moins des arrivées les 100 derniers tours, en nocturne, mais là on a vraiment eu la majeure partie de la course en nocturne. Vous en avez pensé quoi? Bonne chose, mauvaise chose?
Si ça tenait qu'à moi, je ferais toutes les courses en nocturne à Martinsville.
D'accord.
Parce que déjà, on a vu que les réglages avaient une influence assez importante. Et puis, honnêtement, d'un point de vue visuel, c'est une réussite. Il manque certes les fans dans les tribunes, comme toutes les courses depuis la reprise. Mais je pense que c'est une réussite et que la NASCAR ce serait une bonne idée qu'elle continue sur cette lancée et qu'elle tienne plus de courses en nocturne à Martinsville. Parce que plus c'est spectaculaire également.
Lilian ?
J'allais y venir, ouais. C'est vrai qu'il y a un effet de vitesse. Bah, comme à Bristol, il y a un effet de vitesse qui est décuplé du fait de la nuit. Et bon, là, ça n'a peut-être pas été la meilleure course qu'on ait eu à Martinsville, mais en tout cas, oui, je rejoins Louis. C'est clair que la nuit à Martinsville à refaire, clairement, avec du public.
Eh bien, écoutez, on verra ça quand le calendrier 2021 de la NASCAR sera publié, c'est-à-dire pas tout de suite.
On va déjà s'occuper de publier celui pour le reste de la saison.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, on a jusqu'au 2 août. Mais bon, on verra. Effectivement, je pense qu'on a fait le tour de Martinsville, messieurs. Et avant d'enchaîner avec Homestead, on va faire un petit j'aime, j'aime pas. Je sais que vous avez totalement potassé votre affaire. Allez, Lilian, je t'écoute.
Bon alors je vais improviser. Moi j'aime pas. Je vais dire Aloïs qui m'a. Je vais pas dire spoiler la course de Martinsville, mais en disant
non.
Non, mais En fait, t'as dit que la course était plaisante. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose de super sympa et en fait bah du coup je suis resté un petit peu sur ma faim.
Ah bah elle était plaisante. Ah si c'est pas plaisant ça pour toi, je sais pas ce qu'on peut faire.
Bah Geoffroy et moi on est assez d'accord, ouais, c'est pas ce qu'on a vu de mieux à Martinsville, ouais. Je te dis, moi, la fin, malheureusement, je suis resté, ouais. Je sais pas. Il m'a manqué un petit quelque chose, tu vois, sur
Ouais,
la fin.
c'est ça. Après, enfin, très content que Truex soit parvenu à remonter et à mettre une, enfin, à mettre une correction à tout le monde, mais il a manqué un petit quelque chose. Ça a manqué un peu de saveur. On a vu des choses parfois un petit peu plus épicées du côté de Martinsville.
Ah ouais, c'est ça. On s'attendait peut-être à une vengeance d'Elliott sur Joey Logano. La Fox ne s'est pas privée pour nous remettre ce qui s'était passé par le passé. Idem entre Truex et Logano. Puis bon, au final, on n'a pas. Tout le monde a été très sage.
Est-ce que t'as un j'aime pas?
Ben, ça, c'était mon j'aime pas.
Ah pardon, je pensais que
Ben,
ok.
mon j'aime, allez, je l'improvise. Comme dira Loïs, j'aime bien ma voiture de papa. C'est totalement improvisé.
D'accord. Monsieur a des voitures de fonction. Aloïs.
Mon j'aime, c'est le. Je sais pas si t'avais prévu d'en parler par la suite, Geoffroy,
Oui.
mais l'interdiction, enfin tout du moins le bannissement des drapeaux confédérés sur les différentes pistes de la NASCAR qui a été décrété au cours de semaine et qui est, à mon sens, une excellente chose qui aurait mérité d'être faite bien auparavant, certes, mais il faut pas trop en demander à la NASCAR non plus. Et c'est surtout le support de tout l'univers de la NASCAR qui est totalement sur la voie et qui supporte cette décision de la NASCAR de bannir les drapeaux confédérés, donc en guillemets, pas entre guillemets, mais qui sont complètement racistes. Donc c'est une très bonne chose, surtout avec l'actualité de ces dernières semaines.
Mais moi, ça faisait bien longtemps que j'en voyais plus, donc j'ai.
Mais
C'est pas que
oui.
j'ai été étonné en voyant la news, si tu veux.
Regarde bien dans l'infield à la dégâts, par exemple.
Mais il me semble que ça avait déjà été interdit il y a quelques années.
Je sais pas, toi, Loïs, c'est Geoffroy qui avait été à Phoenix il y a quelques années. Vous en aviez vu là-bas ou pas?
Non.
Phoenix, on va dire, c'est moins républicain, c'est moins extrême.
C'était aussi un État confédéré, l'Arizona, mais ouais, c'est
Ah
ça, c'était
bon?
un peu.
Non.
Si.
Il n'existait pas l'État au moment de la guerre
Ici
civile américaine.
sont raccrochés un peu après. Mais si, ils y étaient. Mais c'est vrai que c'est plus tout ce qui va être Texas, Alabama, Géorgie, Caroline du
Tennessee.
Nord, du Sud, Tennessee, Floride,
Le stéréotype, quoi, ouais.
Virginie, je crois aussi.
Peut-être plus maintenant.
Ouais, mais
Mais en tout cas,
voilà.
c'est vrai si tu le dis que la NASCAR l'avait déjà banni auparavant, mais c'était surtout des mots en l'air, c'était surtout des paroles, alors que là, j'ai l'impression que ça va être acté et que ça va être poussé plus loin avec les différentes tensions qui règnent aux
C'est
États-Unis
ça.
depuis un mois.
C'est ça, c'est.
Et pour faire le lien avec ce que Geoffroy nous a dit en début de semaine, le drapeau des Confédérés n'est pas le drapeau des États-Unis.
Oui,
À ne pas confondre.
c'est vrai.
Si vous voyez de quoi je parle.
Il y a les mêmes couleurs, mais non, c'est pas la
Ah,
même
faut y
chose.
aller pour confondre les deux, faut y aller fort quand même, hein.
Faut quand même y aller fort. Mais bon, on va y revenir après. On va finir le j'aime pas, Aloïs, parce que là, on est encore en train de partir en cacahuète. Est-ce que t'avais un j'aime pas?
Mon j'aime pas, le retour des moustiques. Là aussi, c'est improvisé, mais je m'en passerai bien.
D'accord. Ok. Bah c'est bien. Mon j'aime. Non mais va enchaîner là-dessus, quoi.
Eh ben, justement, on a besoin de gagner du temps. Moi, je balance une information, on peut pas rebondir dessus.
Ouais, c'est ça, oui. Mon j'aime, messieurs, c'est qu'en début de semaine, j'ai vu sur Eurosport le résumé des 24 heures du Mans 2016. Et honnêtement, enfin, c'est toujours savoureux de voir Toyota se faire poutrer dans le dernier tour avec des problèmes électriques. Je suis désolé, mais c'est toujours aussi drôle. J'ai aimé.
J'allais dire, c'est pas l'année où Peugeot se fait avoir, mais ça, c'est toutes les années.
Non, là, c'était Toyota. C'est Toyota avec les problèmes électriques dans l'avant-dernier tour et avec Nakajima qui s'arrête devant la ligne de départ arrivée.
C'était dans les tribunes.
C'était très, très bon. C'est voilà, ça me fait toujours marrer. Donc,
t'es comme ça, toi.
Donc voilà. Allez, on reprend un petit peu le fil de l'émission, messieurs. Homestead qui arrive ce week-end. Une course diurne, hein, ça va changer un petit peu. Qui sera dimanche à 15h, donc 21h pour nous. Je n'ai pas l'heure du drapeau vert, mais bon, un petit peu comme d'habitude, j'ai toujours pas l'heure du drapeau vert de Martinsville, donc voilà.
Ah, te plains pas, t'as eu des nouvelles de l'IndyCar.
C'est ce que j'allais dire, est-ce que t'as eu l'heure du drapeau vert pour le Texas?
En IndyCar, oui, je l'avais.
Ouais.
Oui, en IndyCar, je l'avais, oui, faut pas déconner non plus.
Ah, tu l'avais, je croyais que tu l'avais pas eu.
Si. Non,
ils
c'est
sont forts, ils sont forts.
C'est du côté de la NASCAR pour l'instant, si je regarde, si ça veut bien s'afficher, je crois que je n'ai pas je n'ai pas depuis Bristol, Atlanta, Martinsville, Homestead, je n'ai pas l'heure du départ, ce qui peut être un petit peu embêtant quand même. Mais bon, c'est pas grave, il y a déjà des courses qu'on il y a déjà des courses qui ont eu lieu.
Et puis comme il y a plein de commémorations avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ils prennent du retard.
Effectivement. Lilian, je vais te donner les horaires, mais je les ai déjà dit. 14h50, les pilotes qui sont appelés aux voitures, et 15h, le départ. Voilà,
plus ou moins.
Plus ou moins le départ avec un drapeau vert qui traîne sur les coups de 15h15, donc ce qui fait du 21h15 en heure française. 38 pilotes seulement, la grille de départ est connue, c'est Denny Hamlin qui hérite de la pole position suite au tirage au sort. Bon. Il partira de la pole comme pour la finale l'année dernière. Voilà ce que je voulais ajouter, Lilian.
J'allais dire, est-ce qu'il y a cette saloperie de PG1 à Homestead? Je ne sais plus.
Non, je crois pas.
Je crois pas qu'ils en mettent...
Homestead, non. C'est trop multi-trajectoire pour... pour vouloir le passer en mono-trajectoire.
Ouais, c'est surtout qu'il n'y a pas d'IndyCar après, donc bon, à quoi ça sert?
Bon, bah ça va, enfin une course sur un mile et demi qui devrait nous intéresser.
Ouais, c'est pas comme si on a eu Atlanta la semaine dernière, quoi.
C'est vrai. Ah, mais là, on les enchaîne, ça va être trop rapide, là, ça va plus aller.
Après, on va être en manque.
C'est ça, c'est pour ça, après, ils vont à Talladega avec du PJ1 partout. Faut bien que.
Ils vont faire du single file pendant 188 tours, t'imagines?
C'est ça, faut bien coller les drapeaux confédérés à la piste, quoi. Donc. Homestead, quand même, messieurs, petite particularité, retour du public. 1000 personnes à Homestead, essentiellement des militaires et des familles de militaires et de personnel soignant. Oui, c'est des invités triés sur le volet, va-t-on dire. Alors qu'à Talladega, ce sera payant, c'est $40 l'accès en tribune, $50 l'accès sur la partie tour, donc la plus haute du Talladega Super Speedway. Et comme faut bien rentrer du pognon, il n'y a pas de tarif préférentiel pour les 12 ans et moins. Faut pas déconner non plus. Et port du masque obligatoire pour les 3 ans et plus à Talladega. Et qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre?
C'est limité à 5000 places, je crois.
C'est limité à 5000 places. Des groupes de pas plus de 6 en tribune et une distanciation physique de 6 pieds, donc ce qui fait à la louche 1m83. Donc voilà, on aura un petit peu de monde en tribune à Talladega. La tribune est tellement grande que...
ça va être ridicule. Les personnes à la Vega...
C'est ça nous rappellera les excellentes courses d'IRL d'il y a quelques années, quoi. Et à l'époque, c'était vraiment de l'IRL.
Parce que t'as la Vega, quoi, on approche bien les 100 000 places, je pense, poussées en tribune.
Ouais, t'as la Vega, oui.
On les dépasse même.
Je sais pas, parce qu'on a retapé un petit peu les tribunes. Je vérifie ça. Mais oui, à l'époque, on était au-delà des 100 000 places.
Désolé, mais 1000 personnes à Homestead et 5000 personnes à Talladega, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Hein.
Ouais, c'était 175 000 places avec la tribune comment qui était à la tribune principale qui a 80 000 places. Voilà un petit peu pour le.
Même si Chase Elliott est devant, on n'entendra pas la foule crier.
Ça risque d'être compliqué. Ou alors va vraiment falloir crier très très fort.
Au mégaphone.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette course de Talladega, non, la semaine prochaine, Homestead. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si,
c'est la première fois qu'elle est plus en clôture de la saison.
Oui, qu'elle est plus en clôture de la saison. Et tu as dit quoi, Aloïs?
Ce serait bien qu'on évite les orages.
Ça serait bien qu'on évite les orages, oui. Et ce serait
en Floride.
Oui, à cette époque-là, en Floride.
C'est pas gagné, c'est ça que tu veux dire.
C'est pas gagné du tout, ouais.
Et je crois, Loïs, que tu voulais aussi parler du sponsor de la course.
Ah!
Ah! Quel sujet!
C'est une info qui sert à rien, ça.
Non.
Elle sert à quelque chose. Parce qu'elle nous a bien fait marrer, en tout cas. Mais on parlait du drapeau confédéré il y a quelques minutes. Mais du coup, le sponsor de cette course à Homestead Miami ce week-end, c'est une marque de vodka assez savoureuse, on va dire. Puisqu'elle s'appelle Dixie Vodka. Donc, pour les connaisseurs, Dixie, c'est une sorte de sobriquet pour qualifier les États du Sud des États-Unis. Donc, en général, les États confédérés.
Et ils sponsorisent Bubba Wallace, c'est ça pour la course?
J'espère pas.
Je plaisante.
je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ça me surprendrait énormément.
Bah, après, ce qu'il avait sur sa voiture à Martinsville, ouais, ça ferait un sacré changement.
Ça ferait un sacré changement, effectivement. Mais pour en revenir à tout ça, avec ces histoires de confédérés, ça aussi. Enfin, de confédérés, non, pardon, de drapeaux confédérés, ne faisons pas d'amalgame, ça a quand même aussi un côté assez savoureux, dans le sens où la NASCAR est quand même très sudiste. Je veux dire, la base des fans de la NASCAR, c'est quand même. Excusez-moi le terme, mais les QTRE de l'Alabama, c'est la Caroline du Sud, c'est les Rednecks, c'est tout ce coin-là, quoi. C'est tous les États qu'on citait juste avant, le Texas, la Virginie, Géorgie,
Tennessee, ouais.
Ceci dit, c'est ça. Il faut quand même souligner que la communication de la NASCAR, des pilotes et des grands noms de la série est quand même plutôt ouverte et plutôt progressive depuis quelques semaines. Et je pense que c'est un virage qui est à noter.
Oui. Mais c'est vrai que ça fait drôle de se dire les méchants du Sud contre les gentils du Nord. Parce que c'est un petit peu ça, au final. Alors que la NASCAR est née dans le Sud et avec ça renie un peu ses origines.
Mais après, j'ai vu beaucoup de papiers d'opinion passée sur les internets depuis quelques jours et qui tacle les personnes qui disent vu les positions de la NASCAR je vais plus regarder ça, et au final c'est quand même assez en mode une addition par soustraction.
D'accord. Donc,
c'est une bonne chose, en gros, pour faire simple, c'est une bonne chose que ces personnes là se dissocient de la NASCAR.
Et donc, du coup, une addition par soustraction, ça fait plus ou ça fait moins?
Bah, ça fait plus, du coup.
Ça fait plus?
Bah, oui. Hein.
D'accord. Non, mais c'est juste pour être sûr, parce que...
Ça dépend combien ils en perdent et combien ils en gagnent, quoi. C'est toujours pareil.
C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'est vrai que, après, c'est un sujet tellement politique, tellement sensible que...
Politique et même marketing, j'ai envie de te dire.
Ouais, c'est... T'avances en terrain miné, quoi. C'est... C'est très très compliqué, et puis enfin voilà, je suis même pas convaincu que ce sera suivi d'effet derrière. Je sais pas, hein, on verra ça dans quelques temps, dès Talladega la semaine prochaine, mais bon, je suis pas totalement convaincu de la chose. On verra.
Sauf que nous, enfin, vu d'Europe et de France, je trouve que c'est assez compliqué vraiment de se rendre compte de l'impact que tout ça peut avoir là-bas, quoi. C'est comme quand Kyle Larson avait prononcé un des deux mots qu'il ne faut pas prononcer aux États-Unis.
D'ailleurs, c'est plutôt ironique la situation actuelle de la NASCAR après cette sortie non contrôlée de Kyle Larson pendant le confinement.
Mmh. Oui, mais ouais, ouais, voilà. Enfin, tout ça pour dire que ouais, je trouve que de chez nous, c'est assez, assez oui. compliqué de vraiment voilà, de voir et de comprendre l'ampleur que le sujet peut avoir.
Oui, ça, c'est, on n'est pas immergé complètement aux États-Unis, donc on ne partage pas le quotidien des Américains, donc c'est un petit peu difficile de juger.
Et... Oui, et puis ils ont un passé assez lourd quand même, hein, avec la ségrégation, tout ça, bon.
Oui, enfin bon,
en Europe... l'histoire du pays, mais...
Enfin, tu peux regarder en France, en Europe, avec la colonisation, on n'est pas mieux, hein.
Non, c'est clair.
et on est allé partout, hein, donc...
Toi, Lilian, t'as juste à regarder de l'autre côté de la frontière, en Belgique, ces derniers jours, c'était assez tendu également, avec le roi Léopold II, qui a tué des millions de Congolais pendant la colonisation.
Ouais, bon, je sais si avec les nous, je, nous français, on n'est pas bien mieux, hein, mais bon.
Non, on n'est pas mieux, on n'est pas mieux, on est d'accord.
C'est vrai. Bon, messieurs, je pense qu'on est encore en, encore une fois en train de diverger, mais mais c'est le sujet, je pense, qui veut ça. On va s'arrêter là-dessus. On va se donner rendez-vous bah, dimanche, enfin même samedi pour ceux qui voudraient suivre et la Xfinity et la Truck, dimanche pour la Xfinity et la Cup. Quadruple ration de NASCAR cette semaine, ce week-end, ça va faire du bien, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, bonne semaine de course, et en plus, il y a les 24 heures du Mans virtuel ce week-end. On ne sait jamais, peut-être que Toyota va encore perdre.
Tant que la fille de Denny Hamlin, n'est pas dans les parages, ça ira.
Ouais, non, mais à mon avis, je pense que Denny Hamlin, il aura autre chose à faire.
C'est ouais. Pas
faux. Voilà. Merci à toutes et tous.
Avec cette voiture, par exemple.
Ouais, c'est ça. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Bonne fin de semaine à tous, à la semaine prochaine.
Bon week-end de course, à plus.